carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série Grand comédien et patrimoine théâtral est aujourd'hui Jean Piat, qui a plus de 80 ans, accumule les succès au théâtre. C'était en 2008 et 2009 avec Maria Pacôme dans La Maison du Lac. Cette fois, c'est dans un seul en scène, à l'affiche de la Comédie des Champs-Élysées à Paris, un texte écrit par Françoise Dorin et intitulé « Vous avez quel âge ?», un monologue drôle, élégant, grave et tendre sur l'art de bien vieillir. Un monologue à travers lequel Jean Piat connaît de véritables moments de communion avec le public. Jean Piat, au sujet duquel quelques mots de Maurice Druon, l'auteur des Rois maudits, qui fut secrétaire perpétuel de l'Académie française, valent mieux que tous les grands discours. Jean Piat, a dit Maurice Druon, incarne le don, l'intelligence, l'amour de la langue de France. Il sait offrir le mot, scander la phrase, en rendant évident non seulement le sens, mais l'intention. Il dit juste parce qu'il a l'oreille juste. Le texte toujours commande son jeu. Fin de citation. Jean-Pierre, bonjour et merci bonjour. De nous accueillir chez vous. Vous êtes né en 1924, c'était à Lannoy, dans une petite commune proche de la frontière belge. Comment le théâtre est-il entré dans votre vie ?
Oh, d'une façon très naturelle, parce que je faisais partie vers 14-15 ans d'un cercle de jeunesse étudiante chrétienne dans la paroisse de Saint-Ferdinand-des-Ternes à Paris. On avait un petit local rue d'Armaillé, on voulait s'acheter un billard russe. Un billard russe, c'était une espèce de petite aventure rigolote qui consistait à jouer au billard et ne pas faire tomber les quilles, enfin, etc. Ceux de mon époque savent ce que c'est qu'un billard russe. Maintenant, l'usage en est perdu en tout cas. Et on voulait s'acheter un billard russe, et pour s'acheter un billard russe, il fallait de l'argent. Et pour avoir de l'argent, on a organisé ce qu'on appelait des matinées récréatives au patronage Saint-Ferdinand-des-Ternes, qui se trouvait un peu plus loin que l'église et le quartier des Ternes, qui se trouvait rue Roger-Bacon pour les initiés. Et on a monté des spectacles comme ça avec Piem, qui s'appelait Pierre de Montvalon à cette époque-là, avec un certain Decaux qui s'appelait Alain Decaux à cette époque-là aussi. Et on a fini par grimper jusqu'à Molière avec le médecin malgré lui, inévitable médecin malgré lui, que tous les potaches de France ont joué à cette époque-là. Puis ensuite, on a monté Knock. Et puis voilà, petit à petit, ça arrive comme ça. Bon, la guerre est arrivée en 40. On a continué un peu entre 40 et 44 à faire ces petites matinées récréatives. Et puis, bon, j'ai passé mon bac à Sainte-Croix, etc. Je vous passe un peu les détails. Et un jour, il y avait une tradition à Sainte-Croix. À la fin de l'année scolaire, chacun des élèves faisait inscrire au tableau ce qu'il avait l'intention de faire. Alors, bien entendu, il y avait des fils de notaires qui devenaient notaires, des fils de médecins qui devenaient médecins, etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le mot théâtre. Vraiment, je peux dire actuellement, 65 ans, 70 ans plus tard, je ne sais pas pourquoi j'ai mis le mot théâtre. Mais j'ai mis le mot théâtre, ça n'a choqué personne à Sainte-Croix, en tout cas pas les préfets d'études. Et quelques semaines plus tard, je rencontre un ami de mon frère qui me dit, il y a quelqu'un qui cherche des acteurs pour partir en tournée en Allemagne. J'y vais, je me pointe, je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, vous voulez faire quoi? Vous voulez devenir acteur? Oui, mais vous savez, nous sommes des tournées particulières pour le STO, les gens du STO, les camps de prisonniers, etc. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était une organisation allemande. Par bonheur, je ne suis jamais parti, car les Allemands avaient autre chose à faire que d'organiser des tournées théâtrales à cette époque-là, car nous sommes là en fin 43. Mais j'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit, écoutez, si vous voulez faire du théâtre, si vous voulez aller voir les tournées barrées, ce sont des gens qui organisent beaucoup de choses, je suis allé voir les tournées barrées. Là, je suis tombé sur des professionnels qui m'ont dit, c'est un métier de chômeur, c'est un métier d'imbécile, enfin bon, c'est tout ce qu'on peut raconter à un jeune acteur, enfin un jeune acteur, un jeune homme de 19 ans à cette époque-là. Et j'ai passé une audition avec une femme de La Fontaine, j'ai été reçu, j'ai parti le 2 janvier 44 en tournée avec une pièce qui n'a rien de glorieux, qui s'appelait Monsieur de 5 heures, dans laquelle au premier acte je jouais un barman, au deuxième acte un inspecteur de police, j'étais second régisseur, j'ai fait 6 mois de tournée, à l'issue de quoi j'ai rencontré Roland Pietri qui allait devenir le metteur en scène attitré d'Anouilh, qui m'a dit faut te présenter au conservatoire, je ne sais pas ce que c'était, et alors je me suis présenté au conservatoire, j'étais reçu.
Mais après, ça s'est pas très bien passé.
Si, j'ai fait 2 ans d'études au conservatoire, mais j'étais viré du conservatoire. Oui. Parce que là, c'est un petit peu spécial. Il y avait un examen de littérature, et comme j'avais mon bac de philo en poche, pour moi, c'était sans problème de passer un examen de littérature. Mais je suis tombé sur une question lourde, dont je ne connaissais rien du tout. C'était un truc sur le théâtre grec. Et malheureusement, il y avait un changement de professeur, et le professeur, à ce moment-là, était un monsieur qui sortait de l'université. C'était pas l'ancien professeur qui s'appelait Toudouze, et qui engageait la plupart des jeunes acteurs pour faire des petits cachets en ville. Ça arrangeait tout le monde, lui d'abord et nous ensuite. Donc avec lui, il y avait une familiarité totale, une habitude totalement hors discipline de suivre les cours. Tandis que là, non, je me suis levé à un moment donné, et ça se passait dans la bibliothèque du conservatoire de la rue de Madrid. L'universitaire, qui était le nouveau professeur de littérature du conservatoire, m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis ben, « Je vais chercher un livre. » « Un livre de quoi ?»« Mais je ne sais rien sur la question, alors au moins je pourrais répondre. » Il m'a dit « Vous foutez de moi ?» J'ai dit « Non, il paraît que j'ai toujours eu l'air de me foutre de la tête des gens, ce n'était pas mon cas. » J'avais vraiment envie de répondre quelque chose, mais pour répondre quelque chose, il fallait que j'aie une documentation, donc chercher un bouquin. Il m'a flanqué à la porte. Et je n'ai pas pu concourir, et à partir de ça, c'était fini, conservatoire, c'était terminé pour moi. Et j'étais reçu sur audition à la Comédie Française.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Trois mois plus tard.
Ça, c'est du panache, il y a du Cyrano déjà.
La Comédie Française avait besoin de renouveler un peu sa troupe, nous sommes en 47, donc il y avait des trous dans la troupe. Et j'ai passé une audition avec le Barbier de Séville, j'ai été reçu et je suis entré contractuellement à partir du 1er septembre 1947, pensionnaire de la Comédie Française.
Alors vous aviez 23 ans et vous commencez par un énorme succès. Parce que...
Je commence par faire des débuts officiels dans le Barbier de Séville en février 1948. Mais c'était d'autant plus drôle que c'était encore dû à un coup de chance parce que Robert Manuel, qui jouait très normalement le rôle, s'était cassé la cheville. Et l'administrateur de cette époque, Pierre-Aimé Touchard, me convoque un lundi en me disant « Dites-donc, Robert Manuel s'est cassé la cheville, il ne peut pas jouer jeudi ». Oui, alors, ben, c'est le Barbier de Séville. Oui, et alors ben, il me dit, est-ce que, ben, il faut que vous jouiez jeudi. Ah, il voit mon étonnement, il me dit, pourquoi vous avez l'air étonné? Je dis, oui, un peu, oui. Mais il me dit, vous avez auditionné dans le rôle. Oui, j'ai auditionné dans le rôle, mais c'est la première scène, c'est tout. Ah, bon, me dit-il, rien du tout du reste. Non, rien du tout du reste, non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, ben, j'ai dit, je joue. Donc, j'ai appris le rôle en trois jours et j'ai joué le jeudi.
Avec une mise en scène de Pierre Dux, hein, à l'époque.
Oui, c'était dans la mise en scène de Pierre Dux, oui.
Alors, donc, triomphe, et vous allez retrouver Beaumarchais 10 ans plus tard. Alors, ce sera cette fois dans Le Mariage de Figaro.
Oui.
Et avec une mise en scène de Jean Meillet.
Jean Meillet, oui.
Vous avez, par hasard ou par logique de la dévolution des rôles à la Comédie Française, que vous avez été attaché à ce personnage de Beaumarchais ou au contraire, vous avez une tendresse toute particulière pour lui?
J'ai maintenant une tendresse non seulement particulière, j'ai même écrit un livre sur lui. Mais si vous voulez, j'étais complètement l'emploi type de ça. Les grands premiers valets. J'étais le successeur de Dux, quoi, très naturellement. Donc, le grand valet de cette galerie de personnages, c'est évidemment essentiellement Figaro. Parce que c'est la montée du tiers-état, si vous voulez, Figaro. Parce que ça part comme ça, aux vertus qu'on exige dans un domestique. Votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? C'est déjà un langage de la Révolution qui va éclater en 89. Et donc, si vous voulez, il y a un peu ça. Il y a cette élégance du peuple, cette audace du peuple, ce franc-parler du peuple qui, au fond, commence à déchirer l'esprit d'une caste privilégiée qui s'appelle la noblesse. Et c'est un petit peu pour ça, si vous voulez, je représentais un petit peu cette catégorie d'acteurs qui ont du ton, de l'audace, un certain front, un certain panache, et puis, disons, une élégance populaire, quoi.
Alors, vous aviez interprété plus d'une centaine de rôles à la Comédie Française. Vous parlez de panache, il y a un rôle qui a marqué sur ce plan, 1964, mise en scène de Jacques Charon, Cyrano.
Oui, mais il y a eu avant une étape très importante. Rouleau a monté à la Comédie Française, a monté Ruy Blas. Après avoir monté Carmen à l'Opéra, qui avait été un très très gros succès, il a monté en 60 Ruy Blas. Et ça a été un énorme succès aussi. Et moi, j'ai joué Don César. Si vous voulez, Don César, c'est la marche d'escalier, si j'ose dire, qui mène directement à Cyrano. La Comédie Française n'avait plus les droits de Cyrano. Les droits de Cyrano relevaient du Théâtre du Châtelet à cette époque-là, de Maurice Lehmann. Et Maurice Escande, qui était administrateur à cette époque-là en 64, a récupéré les droits et m'a dit « Écoute, on va monter Cyrano, tu le joueras ». Et c'est Jacques Charon qui a monté Cyrano. J'ai eu d'abord l'élan nécessaire, ça a été Ruy Blas et le rôle de Don César, qui est évidemment un cousin extrêmement germain, si j'ose dire, de Cyrano.
Alors, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'à la Comédie Française, la vie est marquée par une forme d'ascèse. Vous l'avez vécu ainsi, vous, ou pas?
J'ai passé 25 ans de Comédie Française. Maintenant, évidemment, c'est facile de dire ça. Mais j'ai passé 25 ans sans m'en apercevoir. Mais il est certain qu'au bout d'un moment, si vous voulez, où on se dit, où on continue, et on va vers les pantoufles, vers la sérénité qu'offre la Comédie Française, c'est-à-dire que tous les rôles sont là. Seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est que la force de la Comédie Française, c'est de renouveler sa troupe. Pour renouveler sa troupe, il faut chasser certains pour engager d'autres. Alors donc, il vaut mieux s'en aller avant d'être chassé. C'est un peu pour ça que je suis parti, j'ai quitté le français. Je parle de mon temps, hein, car les règles ne sont plus les mêmes maintenant. Mais de mon temps, il y avait un côté un peu couvent. Alors, on y restait. Si on avait perdu la foi, il fallait s'en aller. Je n'ai pas perdu la foi, mais j'avais le sentiment que d'un destin collectif, je pouvais essayer, je pouvais tenter un destin plus individuel. C'est...
Mais est-ce que vous vous sentiez protégé quand vous étiez là-bas ?
Complètement. À la fois par la qualité de la troupe, car on apprend beaucoup de choses au contact des autres. Vous savez, il y avait de très grands comédiens qui nous ont précédés. Moi, j'ai joué beaucoup avec Louis Seignier, mais avant, il y avait Ledoux, avant, il y avait Clarion, il y avait des choses comme ça, enfin, des noms qui sont peut-être moins familiers maintenant aux oreilles contemporaines. Mais c'était tout de même de remarquables acteurs. Et quand vous aviez en face de vous Robert Hirsch, il fallait aussi savoir jouer la comédie, parce que sinon vous étiez noyé. Il y avait une telle puissance chez Robert, il fallait non pas y résister, mais en tout cas en tenir compte, comme Jacques Charon, comme Micheline Boudet, Denise Jean, etc. Tout ça, c'était des gens tout à fait épatants, et si vous vouliez être à la hauteur, il fallait savoir se défendre. Mais c'était protecteur, parce qu'on ne joue pas la comédie tout seul, et que quand vous avez dans une distribution les noms que je viens de dire, il n'y a plus qu'à laisser rouler le carrosse, quoi.
Mais on s'habitue facilement au principe de l'alternance.
Oui, c'est au contraire, c'est une gymnastique merveilleuse. Au lieu de jouer tous les soirs quelque chose, moi il m'arrivait de jouer le jeu de l'amour dans l'après-midi et de jouer le bonjour gentilhomme le soir ou inversement. Et ça, c'est pas un problème. Je passais même de Cyrano au fil à la patte quand on jouait le fil à la patte de Feydeau. Et on s'apercevait d'ailleurs que jouer Feydeau, c'était presque aussi dur physiquement que de jouer Cyrano. Non, cette alternance-là, au contraire, c'était un bonheur. C'est pour ça que de temps en temps, on me dit, vous passez d'un truc à l'autre en écriture ou un truc comme ça. J'ai été habitué à sauter d'une pièce à une autre, et ça, c'est pas un problème, au contraire, c'est une joie.
Donc vous êtes parti en 72, après 25 ans de très bons et très loyaux services. Le déclic, ça a été quoi ?
Ça a été, si vous voulez, cette espèce de sentiment que, où je continue, je m'accroche, et ça finira par la mise à la retraite, inéluctablement, au bout de 35 ou 40 ans. Bon, j'avais 48 ans à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais au milieu du gué. Mais bon, je ne savais pas combien de temps j'allais encore vivre, mais enfin, à 48 ans, on peut estimer qu'on est à peu près ou à la moitié du parcours. Donc, je me disais, où je continue pas. Et cette crise des 25 ans était assez connue, des 20 ou 25 ans, puisqu'on signait un contrat pour 20 ans, et on pouvait, à la rigueur, être mis à la retraite 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Mais si on renouvelait, on était là pour 5 ans en tout cas. Donc j'avais renouvelé jusqu'à 25 ans d'existence comédie française. Et la 25e année, la question se posait. Finalement, je suis parti avec une pièce de Dorin sous le bras, si je veux dire. C'était le tournant. Et Dux m'avait dit, vous allez être condamné à jouer tous les soirs. J'ai dit, écoutez, on verra bien. Et j'ai été condamné à jouer 900 fois, ce qui ne m'a pas du tout ennuyé. Je n'ai pas trouvé cette
condamnation qui n'est pas douloureuse.
Pas du tout, au contraire, moi ça me rassure. Jouer tous les soirs, c'est fantastique parce qu'on dépouille de plus en plus, on nettoie le minerai de plus en plus, d'une part, et d'autre part, vous savez, vous n'avez pas beaucoup l'occasion de jouer 900 fois une pièce. Et vous jouez 900 fois une pièce, c'est que c'est un très gros succès.
Énorme succès.
Donc ça rassure.
Mais vous n'avez jamais regretté de...
Jamais.
Et vous avez imaginé ce qu'aurait été votre vie si vous étiez resté ?
Oui, je peux très bien l'imaginer. C'est-à-dire que bon, j'avais 25 ans de comédie française, j'aurais eu 35 ans de comédie française, j'aurais été mis à la retraite ou même au bout de 38 ans de comédie française. C'est-à-dire qu'à 60 ans, je me suis retrouvé le nez dehors. Faisant quoi ? Là, il y a une conjonction. En plus, je venais de faire Les Rois Maudits avec Claude Barma, d'après l'œuvre de Maurice Dorion. On a travaillé en 70-71, c'est sorti en 72. Administrativement, j'ai quitté la comédie française le 31 décembre 72. Et le 7 janvier, je crée la pièce à la Madeleine, je crée la pièce Française Dorin, Le Tournant. Donc j'ai eu l'impression de continuer à faire du théâtre dans les mêmes conditions. Quand on est venu me dire c'est plein le dimanche à matinée, ça ne m'étonnait pas parce que nous le dimanche à matinée à la Comédie Française, on jouait soit le Cid, soit le Bourgeois Gentilhomme, soit l'Avare, c'était tout le temps plein. On me dit c'est plein cet après-midi. Ah bon oui, je trouvais ça normal. Or ce ne l'était pas. C'est parce que c'était un succès que c'était plein le dimanche après-midi, etc. Donc je crois que j'ai bien fait parce que je crois que c'est inéluctable. On ne pouvait pas rester au Théâtre Français 50 ans, c'était fini. Et puis au bout de 25 ans, vous avez l'impression d'être dans des charentaises.
C'est pas ça un vous va pas tellement.
Non, faut prendre deux. Enfin, c'était un risque. Oui, c'était un risque. Mais je m'en suis rendu compte après, pas du tout à l'instant où je l'ai pris.
Donc, vous quittez la Comédie Française avec un énorme succès d'une pièce de Françoise Dorin. Oui. Alors, il y en aura d'autres. Hein. Il y a donc le tournant, l'étiquette et tout ça. Oui. Alors, on appelle cela du théâtre de boulevard. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le théâtre de boulevard ?
C'est une imbécilité totale. Il y a le bon théâtre et le mauvais théâtre. Il y a le théâtre vulgaire et le théâtre qui ne l'est pas. Il y a le théâtre qui a des exigences intellectuelles, d'autres exigences que de distraire. Le théâtre de boulevard, c'est Molière. Le premier auteur de boulevard, c'est Molière. D'abord, l'affirmation de Molière, c'est d'abord, il faut plaire. Un point, c'est tout. Et le reste, bon, une pièce qui a plu à attraper son public. Alors, ce qu'il faut éviter, et c'est pour ça que c'est pas tout à fait juste, on a mis cette étiquette-là d'une façon un petit peu méprisante, parce qu'il n'y a au fond qu'un seul théâtre. Il y a un seul théâtre, celui qui intéresse le public, qui soit un théâtre intelligent, intellectuel, tout ce que vous voulez, peu importe, d'exigence de toute nature. Mais ce qui compte, c'est que ça soit ni plat ni vulgaire. Moi, je crois que la vulgarité, c'est à fuir, la platitude, c'est à fuir. En dehors de ça, il y a le théâtre, ça peut être le Cid, pour celui qui aime écouter la tragédie, ça peut être Andromaque, pour celui qui aime écouter la musique de Racine, ça peut être Molière, celui des Faubourgs et des Scapins, comme celui de Tartuffe, de Don Juan ou du Misanthrope, ça peut être aussi de Rhin, mais ce qui compte, c'est éviter la vulgarité. Et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait juste dans cette querelle qui oppose à l'heure actuelle le théâtre dit intellectuel et le théâtre dit boulevardier. On a rejeté le boulevard dans un ghetto, ce n'est pas très honnête.
Le public ne le fait pas, lui.
Non, lui, il va là où il a envie d'aller.
Mais est-ce que le fait de ne plus jouer à la Comédie-Française vous a donné plus de liberté? Vous avez eu l'impression de travailler autrement ou
non.
C'était...
J'ai fait le même métier, c'est le même métier. J'ai travaillé de la même manière, avec les mêmes attitudes, les mêmes soins, les mêmes soucis. Les mêmes difficultés. Non, c'est c'est la même chose.
Alors, vous évoquiez donc, à l'instant, Les Rois Maudits, donc Barma, 1972, énorme succès à la télévision. Avant, il y avait eu aussi quand même Lagardère.
Lagardère, oui.
Le feuilleton de Jean-Pierre Decour. Alors là, est-ce qu'en termes de métier, de travail, ça n'est pas la même chose? Télévision et théâtre?
Oui, non, si.
Il n'y a pas un problème de voix, un problème
non,
de...
Non. Non, si vous voulez, la télévision, enfin, à partir du moment où vous avez une caméra qui vous scrute, c'est le sentiment que tout ce que vous faites va être reçu par la caméra. Et ça, c'est très agréable. Parce qu'au théâtre, vous êtes d'abord... Bon, moi, je suis tout seul actuellement dans la pièce de ce que propose Dorin.
On y reviendra, mais vous aimez ça.
Mais quand vous êtes sur scène, il y a plusieurs acteurs, donc les gens vont vers le personnage qui les intéresse à l'instant où les choses sont dites. Avec une caméra, vous savez en tout cas que ce que vous avez fait, ça va être pris par... Bon, ensuite, il y a le montage, il y a donc la vie du professionnel... metteur en scène, mais malgré tout, vous savez que vous n'avez pas besoin d'augmenter, vous n'avez pas besoin de pousser le jeu au point de vous faire entendre au 30e rang. Et ça, c'est très agréable. Et moi, je trouve qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre un acteur de cinéma et un acteur de théâtre, sinon, il y en a un qui connaît une gloire peut-être plus fulgurante, c'est l'acteur de cinéma, et l'autre une gloire peut-être plus longue à se dessiner ou qui ne se dessine pas du tout, c'est l'acteur de théâtre. Mais peu importe, le travail est le même. Il ne faut pas se dire, je suis devant une caméra, donc il faut que je sois sobre. Non, il faut se laisser aller. Si on se contrôle, si c'est pas bon. Il ne faut pas s'analyser, on n'est pas là pour ça. On est là pour se donner complètement un personnage, car contrairement à ce que croient les gens, on n'entre pas dans la peau d'un personnage. On s'efforce, par le jeu et par la réflexion, de faire entrer le personnage dans notre peau à nous, car c'est notre peau à nous qui est vue, c'est notre gueule à nous qui est observée. Mais en réalité, ce qui sort de nous, c'est ce que le personnage a envie de dire. Donc il y a cette osmose-là entre lui et nous, et par conséquent, elle est identique comme forme de travail, elle est identique au théâtre et au cinéma. Il se trouve que, bon, au cinéma, vous n'avez pas peut-être besoin d'exagérer les choses, puisque je vous dis, vous n'êtes pas contraint d'aller pousser le sens et le jeu jusqu'au 30e rang au fond de la salle. C'est la seule différence. Mais moi, je ne me suis jamais contenu. Vous faites allusion au Roi Maudit. Je me suis laissé aller au Roi Maudit comme je me serais laissé aller dans Cyrano, dans Ruy Blas. C'est la même chose. Et le résultat était utile.
Vous vous souvenez de ce que disait Jouvet à propos de rentrer dans la peau d'un personnage? Jouvet disait « C'est une connerie ».
Oui.
Ah ben oui. C'est une connerie.
J'ai résumé un peu moins brièvement, mais je le pense. On s'efforce de faire entrer le personnage en nous.
Alors, vous avez interprété, j'irais presque tous les grands auteurs, dans tous les genres. Il y a quand même un auteur qui vous est cher parmi tous les autres. Vous lui avez consacré des livres, vous lui avez consacré des spectacles en solitaire, c'est Guitry.
Oui.
Alors, Jean-Laurent Cochet, dans cette série Grand comédien et patrimoine théâtral, nous disait qu'il mettait Guitry au-dessus de Molière. Est-ce que vous iriez jusque-là?
C'est une installation inutile, parce que Guitry lui-même avait la modestie de dire, c'est Alain Decaux qui, avec malice, a appelé Guitry le Molière d'Albert Lebrun, ce qui est assez juste d'ailleurs.
On peut rappeler qu'Albert Lebrun...
était le président de la République jusqu'à la guerre de 1939, oui. Mais non, au-dessus de Molière, non, non, non. Mais si vous voulez, en très bon rang, dans la galerie des grands auteurs français, parce qu'il n'y a pas que ce qu'il a écrit pour le théâtre, il a écrit 127 pièces, oui, c'est énorme. C'est énorme. Il n'y a pas que du bon dans tout ça.
Mais dans tous les genres.
Dans tous les genres, oui, oui, oui. Surtout qu'on lui demandait beaucoup de choses. Puis il aimait tellement ça, il écrivait tout le temps.
Et 30 films en plus.
Si on me demandait de faire une pièce sur les puces, je ferais une pièce sur les puces. Enfin bon, il le disait. Mais Molière n'a que 33 pièces. Il y a aussi des pièces moins bonnes chez Molière, c'est incontestable. Mais je ne mettrais tout de même pas Guitry, malgré l'amour que je lui porte. Et lui-même n'y tenait pas du tout. Et Dieu sait s'il n'était pas spécialement modeste. Pourquoi faire, disait-il, être modeste, pourquoi faire? Bien, mais sans être immodeste, et tout en étant très réservé, il se mettait à un bon rang. Il disait que Molière était notre Dieu à tous. Donc, devant Dieu, on s'incline.
Est-ce que pour vous, ce qu'il y a de plus fort chez Guitry, c'est cette façon de voltiger, de faire voltiger les mots, la langue ? Est-ce que c'est d'abord ça ?
Il a abordé beaucoup de sujets. Et il a fui la facilité en recherchant l'apparence. C'est son langage, c'est sa langue qui est merveilleuse. C'est intelligemment agencé les mots chez Guitry. Vous ne pouvez pas remplacer un mot par un autre chez Guitry. Hein. C'est comme dans un classique, aussi bien racinien que moliéresque. On ne remplace pas un mot par un autre. Et donc, si vous voulez, c'est la qualité du langage et la qualité de cette humeur à la française. Ce n'est pas l'humour britannique, c'est une humeur à la française. Et ce n'est pas Feydeau non plus, c'est autre chose. Il n'a pas cherché à agencer des choses compliquées comme Feydeau qui crée dans ses vaudevilles, merveilleux d'ailleurs, une mécanique extraordinaire. Feydeau, c'est un moraliste au fond. Un monsieur arrive, il a menti, il est condamné par son mensonge à se démêler pendant trois actes dans des situations inextricables, épouvantables.
Mais il y a une certaine parenté entre les deux d'ailleurs,
bien
c'est
sûr,
la solitude des êtres.
Il est né de ça.
Il y a une solitude des êtres
sûr,
chez les deux.
Bien sûr. Et Guitry est né de cette observation de Feydeau, etc., et de la biche et tout ça. Mais moi, ce qui me plaît dans Guitry, ce n'est pas tellement ce qu'il a écrit pour le théâtre. Il y a 10 grandes pièces de Guitry, peut-être davantage. Mais c'est ce qu'il a écrit à côté. Il y a des vers exquis de Guitry. Il y a des explications. Il y a des fameux bouquins de Jeanne d'Arc à Philippe Pétain qui lui a été très, très reproché après l'occupation. Il y a des choses remarquables, d'observations sur le théâtre, sur tout, sur l'ensemble des choses, sur l'art, sur la politique même, etc. Il y a, dans les mémoires de Guitry, il y a des choses tout à fait épatantes. C'est un moraliste important, Guitry. Il dit même des choses sur l'éducation. Pourquoi parler des guerres sans arrêt, dit-il, à propos de l'étude de l'histoire ? Pourquoi ne pas dire en même temps qu'on a construit le château de Chambord alors qu'il y avait tel drame, tel machin ? Bon, il donne des leçons, si vous voulez, dans tous les domaines, sans être donneur de leçons. Il indique des choses dans beaucoup de domaines et toujours avec une qualité exquise.
Alors, dans cette morale à la Guitry, il y a deux ou trois points quand même particulièrement importants. En ce qui concerne l'amour, par exemple, lui, l'amour profond et durable, c'est pas sa tasse de thé, ce qui compte, c'est la séduction.
Oui, sans doute. Et puis, il a tellement été cocu qu'évidemment, il y avait de quoi être un peu amer de temps en temps. Mais on oublie, quand on dit Guitry misogyne, il a écrit un livre qui s'appelait « Elles et toi ». Et « Elles et toi », c'était directement consacré à Yvonne Printemps, qu'il a passionnément aimé. Car je crois que Printemps lui a révélé, honnêtement, ce qu'on peut appeler la séduction physique, si vous voulez. Le désir, la volupté. Enfin bon, bref, il a écrit un petit acte là-dessus où il parle de la volupté en des termes extrêmement précis. Et on comprend très bien de quelle manière Yvonne savait le prendre, si j'ose dire. Mais il a été tellement trompé par Yvonne qu'il a écrit un jour ce bouquin « Elles et toi ». Il n'a jamais prononcé le nom d'Yvonne, mais c'est directement adressé à elle, on le comprend dans la préface. Alors les gens se sont abattus là-dessus. Mais il y a dans « Elles et toi » des propos tout à fait épatants sur les femmes. Il a adoré les femmes. Mais c'était la mode aussi à cette époque-là. Il n'y a pas plus misogyne que le mot de Courteline disant « Les femmes sont tellement menteuses qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'elles disent ». Ça, c'est un mot misogyne. Bon, mais c'était la mode et les femmes prenaient ça avec humour à cette époque-là.
Sur ce plan-là, il était de son temps parce que le mariage pour lui, c'était pas du tout une question d'amour.
Il trouvait que le divorce était peut-être plus important que le mariage parce que le divorce avait une raison d'être, etc. On devrait faire une cérémonie pour le divorce, disait-il. Oui. Vous savez, c'était un homme, vous vous rendez compte, écrire 125 pièces, les jouer, les répéter, faire 35 ou 40 films. C'est un homme qui écrivait de 7h du matin à minuit le soir.
Mais il est né dans un berceau de théâtre aussi, il faut le dire.
Complètement.
À 5 ans, il avait des costumes.
Exactement, les costumes de son père. Son père lui faisait dessiner ses costumes de tous les rôles. Et puis enfin, à 5 ans, il était le filleul du tsar parce que son père jouait à Moscou, au Théâtre Michel. Bon, il est baigné dans le théâtre. Ses parrains, je veux dire. C'est Jules Renard, c'est Feydeau, c'est... Bon, et puis son père était un homme d'esprit extraordinaire. Quoi.
Oui, c'était sa vie, quoi.
Oh, complètement. Il y avait autant d'humour, d'ailleurs, le père que le fils, parce que il suivait un enterrement un jour d'un monsieur qui lui était complètement indifférent, il faisait une chaleur épouvantable, à ce moment-là, on suivait les enterrements à pied, et Lucien se tourne vers son fils et fait « je commence à le regretter », tellement il transpirait l'un et l'autre. Bref.
Pour revenir à votre façon de jouer, est-ce qu'il y a eu des personnages que vous avez eu vraiment du mal à interpréter ?
C'est un peu vaniteux ce que je vous donne. Non, j'ai beaucoup travaillé sur tout ça. Non, honnêtement, non. Je n'ai jamais eu le sentiment d'une... J'ai eu le sentiment des difficultés, mais j'ai eu le sentiment aussi de vaincre une à une toutes ces petites difficultés au cours des répétitions. Oui. Je suis très sérieux dans le travail, vous savez.
Mais est-ce que vous vous sentez, par rapport à un personnage, vous sentez un peu comme une éponge ? C'est-à-dire que vous en gardez quelque chose ou pas ?
Tout acteur est une éponge. Comment est-ce que l'eau pénètre une éponge ? Petit à petit, l'eau arrive et forcément l'éponge s'imprègne. Et qu'est-ce qu'on voit ? L'eau ou l'éponge ? On voit l'ensemble. On voit une éponge, mais on ne voit pas que l'eau dégouline, sauf si vous prenez l'éponge très, très pleine d'eau dans vos mains. Mais c'est ça, si vous voulez, on est là pour absorber tout ce que le personnage peut avoir à exprimer, et quand on a le sentiment que c'est bien clair, que les sentiments sont bien en place, bon, ben, y a plus qu'à se présenter devant le public et voir ce que ça donne.
Est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont beaucoup appris sur vous-même ?
Oui, c'est certain. Il y en a pas beaucoup, mais quand même, il y en a particulièrement que j'ai joué, parce que j'avais fait l'adaptation de cette pièce, en entrant davantage intimement dans le propos, c'est l'affrontement, où il était question des relations d'un prêtre, d'un jeune séminariste. Et j'ai été à la fois, puisque j'ai fait l'adaptation, à la fois le jeune séminariste et le prêtre. J'ai joué le prêtre, bien entendu, j'avais plus l'âge de jouer le séminariste. Mais c'était un instant de réflexion indispensable, parce que ça tombait aussi à l'instant où on peut se permettre ce genre de choses, autour de 70, quoi, tout de même. Et c'est sans doute l'instant où, précédé peut-être d'autres réflexions, mais c'est sans doute l'instant où on se pose la question de la fin du parcours. Et donc, j'ai eu le sentiment, étant donné que je suis né catholique, racine chrétienne, etc., j'ai eu le sentiment de retrouver les exigences de ce parcours que j'avais perdu de vue, bien entendu, parce que quand on vit, et on ne s'impose plus les mêmes disciplines, ou en tout cas les mêmes réflexions. Et à partir de cette dissection un petit peu, car c'était tout de même très précis, c'est une pièce américaine, c'est certain, mais une pièce américaine qui avait tout de même d'universalité, puisqu'on faisait allusion au sacerdoce des femmes, au mariage des prêtres, et ça avait surgi comme ça, et surtout, si vous voulez, la façon de se comporter comme un prêtre devant ses paroissiens, le jeune séminariste redonnait au vieux prêtre que je jouais, redonnait un sens de l'exigence, quoi, de l'exigence christique, si vous voulez. Et c'est un très beau thème. On ne peut pas jouer ça impunément. On peut jouer ça sans y croire du tout, hein, ce n'est pas requis absolument. Mais si vous êtes un petit peu de sensibilité passée par ces couloirs-là, vous êtes contraint, me semble-t-il, d'observer ce qui se disait, enfin en tout cas de retenir l'essentiel de ce qui se disait.
Donc actuellement, vous êtes seul en scène, mais ce n'est pas la première fois, je cite dans les dernières performances de ce type, Prof, de Sacha Guitry. Ces spectacles vous procurent en tant que comédien un plaisir particulier
Je crois, oui, parce que j'ai voulu, quand j'avais 19 ans, j'ai voulu peut-être entrer au Music Hall. J'ai passé une audition au Moulin de la Galette avec une chanson de Charles Trenet. J'avais tellement la trouille que j'ai bafouillé ma chanson. C'était « Ah, qu'il est beau, le débit de l'eau, ah, qu'il est laid, le débit de l'eau ». Enfin, c'était ce truc-là. Et j'ai tellement eu la trouille que ma carrière de chanteur de music hall s'est arrêtée immédiatement. Et puis, enfin, je suis entré dans le théâtre très vite. Mais j'ai rejoué « L'homme de la Manche » 50 ans plus tard. Non, j'ai toujours eu ce goût, j'ai toujours beaucoup aimé le music hall. J'ai admiré de Nougaro à Ferrat qui vient de partir maintenant, ou Montand, ou Becco, enfin tous ces types seuls qui amènent une puissance, une énergie exemplaire et qui sont capables de rester une heure et demie devant des gens sans les ennuyer. Et c'est pas mal, le music hall c'est une école formidable. Et j'ai admiré De Vos aussi, sur un tout autre plan, mais qui pendant 2 heures captivait les gens avec le jeu des mots qui était le sien, quoi. Et j'ai sans doute gardé cette espèce d'esprit-là, car je suis très heureux en scène tout seul. Et vous faisiez allusion à Prof, bon j'ai adoré jouer Prof, parce que justement c'est une mise en garde, c'est une pièce belge, par un auteur belge qui est un professeur, qui est un ex-professeur de musique, etc., et qui a collationné, si je puis dire, dans cette œuvre, toutes les difficultés que peut éprouver un professeur de lettres devant une classe qui s'en fout complètement. Et cette indifférence-là, qui était démontrée avec tous les dangers que ça implique, c'est une œuvre importante. On était seul, mais il y avait beaucoup de monde avec nous, dont les profs.
Donc, alors vous parliez tout à l'heure d'Yvonne Printemps, et Yvonne Printemps disait qu'en rentrant sur scène, elle sentait dans la salle les zones de froid. Et Jouvet disait, au théâtre, tout est suspect, sauf le corps. Alors, est-ce que vous avez aussi un lien aussi physique avec le public ?
Bien sûr, on sent. Il y a des publics qui ont un certain humour, d'autres qui ne l'ont pas le même. Il y a des publics du dimanche après-midi, il y a des publics du samedi soir, il y a des publics du mardi, du mercredi, du vendredi. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas une différence considérable. Mais il y a quand même des nuances et on sent... Vous savez ce que disait Guitry, mais le père Lucien, à qui l'on disait un soir « Oh, ils sont pas bons ce soir. » Il répondait « Tant pis pour eux. » Bon, ben, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est un peu ce qu'on éprouve. S'ils sont pas bons ce soir, tant pis pour eux. Il y a aussi quelquefois des responsabilités de notre part.
Alors, vous parliez tout à l'heure du minerai, donc au fil des représentations, vous affiniez votre façon de jouer. C'est-à-dire que vous vous adaptez au public et petit à petit, le personnage prend corps avec le public ou pas, non ?
Non, il faut jouer loyalement, comme on a l'habitude de jouer tous les soirs. C'est lui qui nous reçoit. Et quelquefois, c'est notre faute à nous. Parce que, vous savez, un vieil acteur disait, on peut ne pas être bon au premier acte, il faut être meilleur au deuxième acte et être éblouissant au troisième acte. Comme ça, il part sur une bonne impression. C'est un peu vrai. On est quelquefois responsable nous-mêmes d'un accueil plus frais du public au début parce qu'on n'est pas dans le coup. Vous avez reçu votre feuille d'impôt le matin du soir où vous jouez, ou vous avez eu un incident familial, ça arrive, enfin, vous avez vos propres difficultés, il faut mettre ça sur la table de maquillage et rentrer dans le personnage. Lui, le personnage, il n'a pas les mêmes ennuis que vous. Donc, par conséquent, il faut obéir au personnage. Mais de temps en temps, malgré tout, ce que vous venez de vivre dans la journée précédente ou dans les jours précédents vous accable un peu et vous n'avez pas la même disponibilité face au public. Donc, vous êtes un peu responsable de son accueil plus frais.
Alors là, dans ce spectacle Seul en scène, donc de Françoise Dorin, vous avez quel âge ? On se rend compte que Françoise Dorin n'a jamais la prétention de vouloir réinventer le monde. Elle veut simplement nous faire observer les gens et les choses avec, pour ceux qui veulent essayer de trouver quelques petites leçons. Il y a un mélange d'humour, de bon sens, de tendresse, de compréhension, presque de compassion d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un ton Dorin ?
Oui, je crois. Elle a une forme d'humour qui est une forme d'humour qui lui appartient en propre, oui. Oui, oui. Elle a des rudesses, quelquefois, même, dans cet humour-là. Elle a un langage qui est spécifique. C'est du Dorin, c'est pas du Guitry, c'est pas du Marcel Achard, c'est pas de l'Armand Salacrou, je parle des anciens, parce que... Bon, et c'est pas non plus Éric Assous, etc. C'est Dorin, voilà. Elle a une personnalité incontestable, et elle a une vigueur dans les mots, elle a une articulation dans les mots. D'ailleurs, ses textes sont assez difficiles à apprendre, parce qu'ils sont très écrits. C'est pas du dialogue comme ça, c'est pas du dialogue à toi, à moi, quotidien, c'est de l'écriture.
Alors en l'écoutant, on se dit que c'est évidemment pas désagréable d'être devant un texte qui a une certaine élégance, mais qu'en même temps que la bonne éducation a du bon.
Parce que... Bien sûr. Il n'y a pas de vulgarité, il y a des rudesses, mais il n'y a pas de vulgarité.
Ce qui touche aussi, c'est qu'elle est sans grande illusion, ni sur nous, ni sur l'amour.
Tout auteur aboutit à un misanthrope, si je puis dire. Il y a un peu de ça. Vous savez, là, il y a deux façons de regarder le monde. Avec des lunettes de soleil ou au contraire avec un objectif très, très précis, oui.
Alors justement, dans cette pièce, donc, l'humour est quasi constant, mais la gravité est d'autant plus sensible que face au vieillissement et au mystère de la mort, on peut employer les grands mots quand même,
oui,
dans un cas,
oui,
comme ça.
Bien sûr.
Françoise Dorin, et c'est le mot de la fin, en vient un peu appliquer la méthode Courrier, quoi. Il y a votre dernière phrase qui est terrible.
Oui.
Terrible, c'est-à-dire que ça dure combien de temps ? Une heure et quart, une heure et demie ?
Une heure et quart.
Arriver à cette phrase, je vous laisse la dire.
Vieillir, c'est emmerdant, mais quand on sait vraiment que c'est ça ou la mort, alors, on trouve ça épatant. Bon, c'est une leçon de philosophie. Comment bien vieillir en acceptant que la fin est là, mais que malgré tout, malgré les difficultés, on existe encore.
Oui, mais enfin, c'est pas très gay, quoi.
Bah non, c'est pas gay, mais la fin de la vie, c'est jamais très gay. Et là, on parle uniquement des gens qui sont, disons, qui sont morts bien portants, si j'ose dire, parce qu'il y a des maladies lourdes à porter qui ne sont pas concernées par cette forme d'humour-là. Mais elle dit aussi, c'est un peu, elle a choisi ce que dit La Fontaine dans La mort et le mourant. « Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, » dit La Fontaine, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage ? C'est une leçon prodigieuse, et elle l'inscrit juste avant justement sa conclusion, elle inscrit le mot de La Fontaine, ce qui est un rappel énormément utile. Car de combien peut-on retarder le voyage ? Ça veut dire les instituts de beauté, oui d'accord, il faut que ça existe. Les crèmes revivifiantes, bien sûr, il faut en mettre. Mais de combien peut-on retarder le voyage ? La Fontaine non plus n'est pas. D'autant plus qu'il donne ce conseil-là à des centenaires. C'est La mort et le mourant et il parle des centenaires. J'aurais qu'à cet âge, on sortit de la vie ainsi que d'un banquet. Quelle belle phrase.
Il y en a une autre.
Remerciant son hôte, hein. Là aussi on est dans... On est dans la religion, tout de même.
Il y a une phrase terrible que vous dites, la vie est une maladie mortelle.
Bien sûr.
C'est simple, mais
bien
c'est
sûr.
Quand même... Il faut le prendre.
Qui n'épargne personne.
Oui.
Oui, mais c'est vrai. De même, d'ailleurs, que c'est vrai quand elle parle, quand elle dit « On ne meurt pas dans la société qui nous a vu naître ». Moi, je le ressens à l'heure actuelle. Je suis né en 1924, vous vous rendez compte, l'énorme différence. J'appartiens, moi, encore à une catégorie scolaire où on avait sa blouse qu'on mettait avant d'entrer en classe et qu'on accrochait en ressortant à un petit porte-manteau qui se trouvait dans les couloirs de l'école.
Vous portiez un uniforme ou...
Oui, non, parce que je n'étais pas pensionnaire, alors je n'avais pas d'uniforme. Mais j'avais en tout cas ma blouse. Vous vous rendez compte maintenant quelle révolution ce serait si on disait aux mômes de 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, vous avez une blouse pour entrer dans vos cours et vous le lâchez. Oh là là.
On y reviendra peut-être au nom de l'égalité sociale.
Voilà, mais c'était une vraie égalité sociale d'ailleurs, sans recherche politique inutile.
On parlait du ton d'Aurin. Il y a aussi un lien très particulier avec le public parce qu'on a l'impression qu'elle traite le spectateur comme un confident dont elle a besoin. Vous avez la même sensation ?
Oui, absolument. Mais je crois que tous les auteurs sont
chez elle, c'est quand même très, très prononcé. C'est-à-dire.
Oui, mais prenez Molière.
J'ai besoin de vous. Elle nous le dit carrément.
Bien sûr, bien sûr. Mais tous les auteurs requièrent tout de même l'attention d'un certain public, donc c'est qu'ils ont besoin de... Quand Molière écrit le misanthrope, c'est quoi le misanthrope ? C'est un monsieur qui n'ose pas dire dans la vie à une dame qu'il s'est indigne de lui, il n'ose pas dire « je vous refuse ». Mais dans le misanthrope, au cinquième acte, il dit à Célimène « allez, je vous refuse ». Car Célimène dit « je veux bien me retrouver dans votre petit coin là, etc. » Et il fait « non, c'est trop tard, allez, je vous refuse ». Il n'a jamais osé dire ça à Armande dans la vie. Donc il fait appel au public « comprenez-moi ». Il ne le dit pas, mais c'est implicite.
Mais la différence entre Françoise Dorin et vous, c'est qu'elle a besoin du public, elle, mais elle n'a pas de rapport direct avec vous, alors que vous, vous jouez face et avec le public et un public qui n'arrête pas de vous exprimer sa gratitude. Alors ça, c'est... Dans votre métier, c'est quelque chose de fondamental.
Pour nous, c'est merveilleux, parce que ce qui fait le drame de l'auteur, c'est qu'il fait l'enfant, mais ce n'est pas lui qui l'élève. C'est nous. C'est nous, acteurs, qui l'élevons. Donc l'auteur est toujours frustré. C'est abominable de voir que des gens rient à cause de l'acteur, alors que c'est elle qui a écrit, ou c'est lui qui a écrit le texte.
Oui, 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 oui.
On devrait dire merci à l'auteur, ils s'en foutent, les gens disent, ils voient l'acteur et ils disent merci à l'acteur, ils applaudissent l'acteur. Bien sûr, la responsabilité première, c'est celle de l'auteur, mais il ne reçoit pas le satisfecit immédiat et visible et audible d'une salle qui applaudit, qui réagit en riant, etc., ou en pleurant, peu importe. Mais il est impuissant. C'est un peu comme le metteur en scène qui a réglé toute une stratégie et qui, dès que la pièce est jouée, c'est fini, elle ne lui appartient plus. Elle appartient aux acteurs. Alors il se venge quelquefois en disant qu'on décale, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais c'est une forme de souffrance. Et le metteur en scène a un degré moindre, mais l'auteur souffre énormément. Même en cas de succès, il est content, bien sûr, mais je vous dis, je ne peux pas dire autre chose. Il fait l'enfant et nous l'élevons.
Alors, j'évoquais dans l'introduction de cette émission le triomphe que vous avez connu en 2008-2009 avec cette pièce d'Ernest Thompson qui date de 1978 et dont Mark Riddle avait tiré en 81 un film célèbre qui avait valu d'ailleurs un Oscar à Catherine Hepburn et à Henri Fonda, c'est La Maison du Lac. Alors, je jouais avec Maria Paco et cette pièce que vous avez d'ailleurs adaptée avec votre fille raconte un vrai miracle. Non seulement c'est celui d'un couple réussi, d'un vieux couple réussi, mais c'est aussi l'histoire d'une femme, c'est un peintre célèbre, mais qui se sacrifie, entre guillemets, pour la réussite de son couple qu'elle porte à bout de bras. C'est possible, ça, un tel sacrifice d'une femme qui... Parce que vous, dans la pièce, vous êtes le prof de grec à la retraite,
oui, oui.
Très bourru, assez égoïste, qui aime bien se faire bousculer. Mais enfin, c'est elle qui porte le couple.
Oh, complètement. Complètement. Oui, lui, il n'est pas gâteux, non, mais enfin, il est en limite quand même.
Il est brillant, il est râleur, il est égocentrique.
Oui, mais vous savez, je crois que les femmes ont un don particulier. Il y a deux formes d'amour de la part des femmes. Il y a les femmes qui vous aiment pour elles, et il y a les femmes qui vous aiment pour vous. Eh bien, là, ce que faisait Maria merveilleusement bien, c'est qu'elle me donnait, enfin, elle donnait au public l'impression d'aimer cet homme pour lui. Alors que d'autres formes d'amour qui sont parfaitement respectables et perceptibles, ce sont des femmes qui vous aiment pour elles. Il y a toujours, si vous voulez, dans cette forme d'amour que manifestait Maria Pacôme pour le personnage que je jouais, cette forme d'amour pour lui, il y a une maternisation, c'est incontestable. Elle était maternelle avec moi et c'est merveilleux d'avoir quelqu'un, d'une épouse ou une maîtresse, qui est maternelle avec vous, c'est exceptionnel. Parce que, c'est tout. Vous savez bien que l'homme cherche toujours plus ou moins sa mère. Sur tous les champs de bataille, les hommes sont morts en disant « maman ». ». Bon, ben, c'est pas vide de sens, tout ça.
Oui, Gary a une phrase terrible là-dessus, en disant que l'amour est condamné à l'échec parce qu'on cherche toujours sa mère.
Oui, mais c'est pas un échec, car on trouve quelquefois à la fois l'amante, la mère, la femme, etc. Il y a les femmes de la Bible, ça existe. C'est pas un mot uniquement de auteur dramatique. Les femmes, moi, j'ai commencé à mieux comprendre les femmes quand j'ai vu mes filles. Mes filles qui ont maintenant l'âge d'être presque des grands-mères, mais peu importe. Mais j'ai vu mes filles travailler, avoir des enfants, les élever, s'occuper de la maison, s'occuper du mari. Alors là, je me suis dit, vraiment, les femmes, c'est des trucs formidables, quoi. Ce sont des créatures d'exception.
Oui, mais vous croyez qu'il...
Elles le sentent tellement bien maintenant qu'il y a un mouvement féministe qui est monté, etc. Bon, quelquefois qui est un peu excessif, mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y a une reconnaissance des femmes. Moi, j'ai une totale reconnaissance des femmes.
Oui, mais vous croyez que dans la nouvelle génération, disons des femmes de 20, 40 ans, il y a beaucoup de femmes comme ça, qui sont prêtes à se sacrifier totalement pour le bonheur d'un homme?
J'espère, je crains qu'il y ait une petite modification que le féminisme a apportée, justement.
Ouais, ouais. Mais vous aimez cette image du mariage pour la vie entière, hein, même s'il y a des escapades sentimentales, hein, vous aimez cette image là?
J'aime l'image. Vous dire que je l'ai observé, respecté, ça c'est
pas
un autre problème.
C'est pas la question que je vous pose.
L'image, je l'aime parfaitement. Oui, je crois profondément qu'il peut y avoir des choses comme
l'idée d'une colonne vertébrale.
C'est une protection, c'est une certitude dans la marche en avant qu'un couple soudé.
Alors vous disiez que Maria Pacôme, donc vous maternez, mais on parle parfois à tort et à travers de la magie du théâtre. Mais lorsqu'on assistait à la représentation de cette pièce, on avait l'impression que Tom et Kate étaient si merveilleusement proches, si merveilleusement soudés l'un à l'autre, qu'on se demandait comment vous faisiez, vous, Jean-Pierre et Maria Pacôme, pour revenir après à une vie ordinaire. On avait l'impression que c'était un tel moment de grâce, de cette communion, qu'on se dit, mais après, les pauvres, dans leur loge, comment ça se passait?
Ben dans la loge, ça se passait très bien, parce qu'elle se démaquillait de son côté, moi je me déshabillais. Mais ce que j'ai éprouvé, c'est que je n'ai pas assez joué ça. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'on a joué... Bon, on a fait une tournée très très brillante, on a joué ça pour la télévision, enfin, etc. On a joué à Paris, mais ça fait partie des pièces que j'aurais aimé jouer, mais 3 ans, 4 ans, 5 ans.
En plus, décor merveilleux.
Ah oui, très beau décor, très belle mise en scène, très réussi.
Il n'y a pas de perspective de reprise?
Non, car le décor est détruit maintenant, etc. Puis c'est un spectacle assez lourd à monter malgré tout, qui est très exigeant techniquement. Et bon, c'est parti. Ça,
on a rarement, enfin, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au théâtre, rarement vu autant les spectateurs à la fin quitter les acteurs avec
un tel regret. Oui, partager la situation avec nous. Il a vivé avec nous.
On voudrait rester avec vous. On voudrait que la vie soit comme ça. En fait.
C'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais elle peut l'être. Elle l'est d'ailleurs.
Elle est rarement
aussi comme ça. D'ailleurs, leur égoïsme d'amant était tel que la fille en souffrait beaucoup. Le rôle qui était joué au cinéma par Jane Fonda, c'était ça. Et c'était elle, Jane Fonda, qui avait souhaité faire le film. Elle a produit le film, comme si elle avait besoin de dire à son père, voilà ce que j'ai reçu de toi, c'est-à-dire pas grand-chose.
Ouais, ouais.
Ah, oui.
Donc, un règlement de compte, oui.
Un petit peu.
Le théâtre a occupé votre vie, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous n'êtes pas du tout un homme, à la différence de pas mal de grands comédiens qui s'ennuient s'il ne parle pas de théâtre ou s'il ne fait pas de théâtre. Vous avez plein de passions.
Oh oui, la lecture en est une. Et puis j'aime beaucoup le sport. Je fais de la natation, j'en ai fait beaucoup, j'en fais un peu moins maintenant. Parce que l'âge venant, je ralentis un peu le rythme.
Et vous étiez un pilier du racing quand même.
Oui, je le suis toujours d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup le football. La télévision est pleine de choses. Elle, malheureusement, ce n'est pas toujours à l'heure qu'on voudrait, mais à partir de 11h30 le soir, il y a des trucs épatants à la télévision. C'est un enrichissement aussi, la télévision. Moi, j'ai commencé à faire de la télévision avec le sentiment que ça allait être un instrument de culture prodigieux. Ça s'est un peu transformé, il faut bien le dire. Mais il reste tout de même qu'à partir de 11h, 11h30, il y a des choses à voir.
C'est le grand rêve du général de Gaulle.
Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs,
il n'y avait qu'une chaîne.
À 20h30. Ça, c'était un peu exigeant.
Avec des masques, en plus.
Avec des masques, oui.
Mais on sent aussi, à travers vos choix, que vous intéressez beaucoup aux questions de société. Au fond, est-ce que vous n'auriez pas pu faire de la politique? Ça vous a pas titillé, ça?
Pas du tout, non, surtout pas, parce que...
Quand même, la pièce sur le prof...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Sur l'art de vieillir, il y a quand même des notations qui sont des notations quasiment politiques.
Je suis un citoyen, essentiellement d'abord, et puis on ne peut pas vivre en dehors de la politique. Quand je vois, par exemple, que récemment, on a eu un nombre de votants très réduit par rapport à ceux qui ne sont pas allés voter, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux.
Vous faites allusion aux élections régionales.
Allusion aux élections régionales, oui, mais même celles qui ne sont pas régionales, on devrait voter à 95%. Ce n'est pas normal.
Ça, c'est un chiffre de dictature en général. Ça.
Non, pas du tout. Je n'ai pas dit de voter pour un tel à 95%. Non, non. On devrait aller voter. C'est un devoir. Moi, je me rappelle, dans ma province du Nord, les gens s'habillaient pour aller devant les urnes. Oui, ils ne seraient pas allés sans cravate. Oui, oui, bien sûr, il y avait un respect de l'urne, un respect du suffrage universel. On a perdu cette notion-là. On a le devoir d'être citoyen. Vous n'avez pas d'opinion ? Eh bien, exprimé par un bulletin blanc ou exprimé par un bulletin barré que vous n'avez pas d'opinion, puisque, mais qu'on en tienne compte, ça c'est un autre problème, de ce sentiment exprimé. Mais ne pas aller voter, pour moi, c'est une grave erreur citoyenne. Mais de là, vous dire que j'aurais aimé être ministre, non. On ne se rend pas compte des obligations et de l'ingratitude du métier politique. C'est un métier, c'est une profession maintenant. Il faudrait mieux que ce soit un idéal, mais ça c'est un autre problème. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller à gauche, je vais aller à droite. Bah, il y a un peu plus de place à droite, je vais aller à droite. Il y a un peu plus de place à gauche, je vais aller à gauche. Bon, ça, on sort de l'ENA et on choisit comme ça.
Vous risquez pas de tomber à gauche. Vous risquez pas de tomber à gauche.
Non,
non, c'est pas.
Mais je pense d'ailleurs que malheureusement c'est mal fichu parce qu'il y a des gens tout à fait remarquables à gauche, il y a des gens tout à fait remarquables à droite.
Ce que disait Napoléon, j'aime les honnêtes gens de tous les partis.
Il avait raison. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'on va pêcher, quand on est de droite, on va pêcher un peu à gauche. Alors brusquement, les gens de droite disent alors on n'avait pas besoin de nous et il faut aller chercher à gauche ce qu'on avait tout de même à droite. Bon, c'est très difficile de choisir le meilleur. La méritocratie est une chose très difficile à réinventer.
Il vaut mieux revenir au théâtre. Hein. Est-ce que vous avez l'impression de donner le meilleur de vous-même à travers le théâtre, hein? Pour employer un grand mot, est-ce que c'est un sacerdoce quelque part? Enfin, avec ironie. Hein.
Oui, oui, avec des guillemets. Oui, c'est un sacerdoce, oui. On est au service de la joie des autres. Je le pense vraiment. L'art est au service de la joie des autres, aussi bien en musique qu'en peinture, etc. C'est pour ça que je déplore quelquefois que l'art nouveau ne me touche pas beaucoup. Ça regarde que les gens de mon âge, peut-être, ou d'autres, peu importe. Mais c'est vrai que je crois que l'art est au service de la joie des autres.
C'est drôle que vous disiez cela, parce qu'en vous regardant, en vous écoutant dans ce dernier spectacle, je pensais à ce mot de Valérie, vous savez, dans Palme, « L'âme se dépense à s'accroître de ses dons
». C'est formidable, c'est formidable.
Je ressentais ce texte en vous voyant et en vous écoutant.
C'est peut-être ça d'ailleurs qui fatigue finalement. Parce que pour répondre à cet accroissement, il faut être en bon état physique. Il ne faut pas se présenter ayant écrasé une cigarette avant d'entrer en scène au coin.
Ça, vous ne l'avez jamais fait, ça.
Jamais, jamais, jamais.
Par respect pour Cyrano et les autres.
Vous savez, c'est tout de même émouvant de se dire qu'une salle est là, des gens sont dans une salle, ont payé quelque chose avec l'espoir de recevoir, non pas un message, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas une joie. On a le devoir d'être attentif à ça.
Alors vous avez 85 ans, est-ce que c'est vrai que vous avez répondu à quelqu'un qui vous disait « Ah, pourquoi vous ne vous arrêtez pas ?» C'est vrai que vous auriez répondu « Ce serait comme quitter une jolie femme ?»
Exactement, oui. Pourquoi voulez-vous que je quitte quelqu'un qui me plaît ? Et je suis heureux au théâtre. Je gagne ma vie grâce à un métier que j'aime. Pourquoi voulez-vous que je l'abandonne ? Si lui qui m'abandonnera, si je ne trouverai plus... Bah, si, il arrive là, vous ne trouvez plus de personnage à la mesure.
C'est un peu une coquetterie. Là, parce regarde l'attitude du public, pour vos deux derniers spectacles, j'en témoigne, il y a une véritable osmose avec le public. Quoi. Il se lève à la fin pour vous remercier.
C'est vrai.
C'est quand même un sentiment étonnant que vous devez ressentir à ce moment-là.
Mais c'est parce que j'ai travaillé sur Guitry et que j'ai créé ce spectacle que j'ai pu jouer seul ce Guitry. C'est parce que je suis allé trouver le professeur en Belgique que j'ai pu jouer prof, etc. C'est parce que j'ai incité Françoise, qui avait fait une soirée littéraire il y a une trentaine d'années autour de l'âge, etc., au Palais Royal. Je lui ai dit, écoute, on pourrait reprendre les arguments de ça, car les rôles n'existent plus tellement pour les acteurs de mon âge. Les personnages de vieux, il n'y en a pas tellement au théâtre classique. Il y en a quelques-uns, mais il faut avoir 50 ans pour les jouer. Et encore, rendez-vous compte que Michel Aumont, qui est un merveilleux acteur, jouait à 19 ans, il jouait gérante des Faubourgs de Scapin à la Comédie Française, parce que c'était son emploi. Moi, je n'ai pas un emploi de vieux, j'ai un emploi d'homme jeune. Mais il y a un moment donné où l'homme jeune, bon, ben, il a commencé à avoir des cheveux blancs, ou des cicatrices telles, ou des rides telles qu'on n'y croit plus. Donc les rôles n'existent plus. C'est pour ça que le théâtre nous quitte à un moment donné. Et c'est très cruel.
Parler de Michel Aumont, il était notre dernier invité. Alors, quand on regarde ce qui se passe sur les scènes parisiennes depuis le mois de janvier, Jean-Pierre Mariel, 77 ans, Michel Aumont, 73 ans, Michel Duchaussois, 71 ans, Jean-Pierre, donc, 85 ans.
Et Robert Hirsch.
Oui, Robert Hirsch, oui, la Serva Amorosa. Est-ce que vous avez l'impression que finalement, ce succès que l'on vous fait, à vous cinq, est-ce que c'est parce que le public se rassure en allant vous voir ?
Je crois que nous sommes des acteurs, essentiellement des acteurs de théâtre, formés d'ailleurs par la Comédie Française. Et c'est une reconnaissance, malgré qu'on peut avoir pour cette institution absolument exceptionnelle qu'est la Comédie française et qui le reste.
Qui le reste.
À travers
vous considérez qu'aujourd'hui...
Oui, de temps en temps, on a l'impression qu'elle ne sait plus très bien où est sa mission, mais peu importe. C'est un creuset exceptionnel et ça forme des acteurs d'une façon exceptionnelle. Les acteurs du français, c'est des types épatants. C'est des acteurs épatants, acteurs et actrices, bien entendu.
Vous avez vu Podalydès dans la barre ?
Je l'ai entrevu parce que je l'ai vu à la télévision. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Mais il y a des éléments de qualité à la Comédie française. Et vous voyez, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, on parlait pas tellement de nous, mais on était déjà à la Comédie française. 35 ans plus tard, on en parle à Venard en disant « Bon, bah, c'est tout de même une belle couvée ». C'est vrai, et ça commence à Michel Duchaussois, qui est quand même le plus jeune de nous tous. La Comédie française a une vertu, c'est qu'elle forme des acteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle les forme au classique. Jouer et être vivant dans des textes archaïques, ça c'est difficile. Parce que c'est plus facile de dire « Salut les mecs, je vais bouffer chez un tel demain soir ». Mais si vous avez à exprimer la qualité d'un texte classique, même si ça dit exactement les mêmes choses, car on mange et on boit et on aime et on fait l'amour au XVIIe siècle et au XVIIIe de la même manière qu'au XXIe, seulement le langage diffère. Au lieu de dire « je vais me taper une nénette », on dit « madame, je voudrais déposer à vos pieds mes hommages », etc. Donc il faut savoir faire ça, avec la même vie. Avec la même vie. J'ai toujours dit à des jeunes acteurs, travaillez sur les classiques. Ça vous contraint à soulever des poids de 100 kilos. Quand vous aurez à soulever des poids de 60 kilos, ça vous paraîtra d'une légèreté totale. Et c'est un peu vrai. Rendre vivant les classiques, c'est plus difficile que rendre vivant un texte moderne. Parce qu'un texte moderne, c'est votre langage du quotidien.
C'était au fond une façon de vivre, parce que le roi de France disant à l'ambassadeur de Suède, dont le pays était en guerre avec nous, « Je regrette, monsieur, que nos rapports ne soient pas aussi bons que j'eusse désiré qu'ils fussent. »
C'est merveilleux. Ça veut dire « Je vous déclare la guerre.
» Oui, il ne nous reste que 2 minutes, si vous permettez, 2 questions banales, très personnelles. Est-ce qu'il vous manque quelque chose aujourd'hui pour être celui que vous rêviez de devenir à 20 ans ?
Je ne rêvais pas à 20 ans. C'était la guerre, j'avais 20 ans en 44, et on ne rêvait que d'une seule chose, c'est la survie. D'abord, bon, bouffer, ça, si c'était possible, mais surtout que la guerre s'arrête. Et on ne pensait qu'à ça. La libération a été un moment exceptionnel de bonheur, d'espérance dans tous les sens, une société nouvelle qui partirait, etc. etc. Bon. Donc je ne rêvais pas à une carrière quelconque. Je n'ai jamais spécialement rêvé à quoi que ce soit. Quelquefois, on me demande pourquoi vous ne faites pas de cinéma. J'ai fait du cinéma alimentaire et j'ai été décomplexé par la télévision, puisque c'est une caméra comme une autre. Mais je ne regrette pas le cinéma parce que je n'étais pas né pour être vedette ou star de cinéma. Ça ne veut rien dire du tout pour moi, sinon la feuille d'impôt qui est très différente. Car si on parle argent, évidemment, vous pouvez faire du cinéma que du théâtre. Mais en dehors de ça, je n'ai pas rêvé, je n'ai pas voulu devenir... j'aurais pu écrire à Monsieur Attel... J'ai vu votre film, vous êtes merveilleux, c'est extraordinaire. Quand puis-je tourner un jour avec vous ? J'ai jamais fait ça. Jamais sollicité quoi que ce soit. Donc c'est ma petite fierté personnelle. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul, dit Cyrano au deuxième acte de la pièce. C'est un peu ça, si vous voulez. Non, je ne rêvais pas. Je me rends compte que j'ai accompli maintenant ce que je ne rêvais pas d'être, mais quelqu'un l'avait rêvé pour moi. Je crois que c'est ma mère qui s'est occupée de tout. J'ai le culte profond de ma mère, parce que j'ai perdu ma mère à 17 ans, et que c'est elle qui m'avait permis d'assister en cachette à 8 jours de cours d'art dramatique, en cachette de mon père, bien entendu, à 8 jours. Et je pense que c'est elle qui a guidé ma vie.
Est-ce que ça veut dire que si c'était à refaire, au fond...
Dans les mêmes rails, oui.
Même rails ?
Ah oui.
C'est formidable, ça.
Oui, c'est assez formidable. Je me rends compte que disant ça, je ne mens pas, et que c'est assez formidable. Je n'ai pas accompli de rêve précis, mais il y a de quoi rêver sur ma vie, si vous voulez.
Merci Jean-Pierre, et merci de nous avoir aussi donné cette leçon de comédien, d'avoir pu pendant 1 heure nous répondre alors que vous parliez des citoyens, alors que dans la rue, là, au bas de chez vous,
oui,
il y a une grande manifestation.
Ça bouge, oui.
Vous avez fait comme si ça n'existait pas. Merci pour nous. Et je rappelle que
chacun a ses petits problèmes.
Oui, ceux-là ont l'air d'être assez costauds, quand même. Je rappelle que Jean-Pierre est actuellement seul en scène à la Comédie des Champs-Élysées, dans Vous avez quel âge ? Donc, je disais tout à l'heure, et je le redis, c'est un monologue drôle, grave, tendre, de Françoise Dorin sur l'art de bien vieillir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le public est enchanté de découvrir ce texte et de retrouver Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci de nous avoir ainsi reçus chez vous.
C'est moi.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous. Thank you.